commencer à le faire, les fantaisies maintenant, il faut que de la science-fiction. Voilà, j'en ai dit assez, c'est un auteur qu'on adore, c'est un auteur dont on aime les livres, on attend les livres, et finalement, il n'y a pas que les organisateurs du festival qui aiment les livres de Victor Dixon, visiblement, vous aussi, et si ce n'est pas encore le cas, je pense qu'après cette conférence et tout le bien qu'on peut en dire les uns et les autres, et ce prix, ce soutien du festival à son travail, je pense qu'on a tous envie de lire les ouvrages de Victor Dixon. Alors, Victor nous fait comme il le fait souvent, s'imagine un cadeau. Il y a 2 ans, il avait écrit une nouvelle spécialement pour le festival. Voilà, un petit inédit. L'année dernière, il nous avait proposé une présentation à la première de Phobos. Il y avait une écrue, puisque c'est un livre qui a été choisi par les professeurs pour être dans la sélection du prix Imaginal des collégiens. Il y a un livre qui est devenu finaliste du prix Imaginal des collégiens 2016 pour le Thomas, évidemment, de Phobos. Et puis là, il y a 2 tomes déjà parus. Le troisième sort en septembre. Donc cette trilogie, en tout cas celle-là, sera bouclée, parce que c'est une idée riche qu'on verra peut-être, on en parlera tout à l'heure. Et cette fois-ci, nous avons Phobos Origine, c'est ce qu'on appelle en langage un peu spécialiste la préquelle, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait référence aux ouvrages, mais ça se passe avant. Alors, pourquoi? En général, c'est bon signe, c'est que c'est un livre qui a très très bien marché, donc Phobos est très bien parti, en tout cas, ça vaut lecteur. Et puis cette préquelle, c'est une façon de faire un peu plus connaissance avec les personnages qui sont pris par l'action assez trépidante, passionnante, avec des découvertes, des renouvellements. Et là, on a un peu plus le temps de se pencher sur la jeunesse de certains des personnages de Phobos, tout simplement parce que les lecteurs l'ont demandé. Les lecteurs l'ont demandé, et Victor l'a fait. Voilà. Victor, la première petite chose que je voudrais vous demander, c'est lorsque vous avez commencé à écrire, vous avez démarré en fantasy avec une série tétralogique, 4 volumes, de fantasy urbaine qui a décroché 2 prix, hein, si je me rappelle bien, dans le monde, 2 prix grand prix imaginaire. Voilà. Après, vous avez débouché sur un diptyque, 2 ouvrages, en partie indépendants, mais qui quand même font partie d'un cycle, Animal, voilà, le site Animal, et vous avez obtenu un nouveau prix. Voilà, 2e fois, et cette fois-ci, vous avez quitté, en tout cas pour un temps, les rivages de la fantasy pour lancer écrire une trilogie de science-fiction. Pourquoi, alors que vous étiez, vous êtes toujours, j'imagine, et on le verra à l'avenir, un excellent auteur de fantasy, vous aimez la fantasy, vous avez du succès en fantasy, les gens savent que vous êtes un vrai écrivain de fantasy. Pourquoi cette fois-ci vous avez décidé de vous lancer dans la science-fiction? Qu'est-ce que ça change de quand on essaie de passer de la fantasy à la science-fiction?
Je ne décide pas vraiment a priori de faire un genre ou l'autre, c'est surtout une envie d'histoire. L'histoire que j'ai envie de raconter à un moment donné va me dicter le genre dans lequel elle va s'inscrire. Pour Jack Spark, j'avais vraiment envie de raconter l'histoire de cet adolescent insomniaque qui fait tout ce qu'il veut pour dormir, qui n'y arrive pas. Il est envoyé par ses parents dans un camp de rééducation pour adolescents difficiles, le camp de Red Rock dans le Colorado. Et petit à petit, il va se rendre compte que la frontière entre le monde réel et le monde fantastique. Et là aussi, imperméable qu'il le pensait, c'était de la fantaisie urbaine, mais le genre fantaisie urbaine, finalement, s'est imposé au fil de l'écriture. Pour Animal, c'est différent, c'est plus un rêve. J'ai rêvé d'une chaumière perdue dans une forêt, pour essayer de m'approcher, sans réussir à l'atteindre. Et quand je me suis réveillé, j'ai repensé au conte de Bouquet-Dor et les 3 ours, que j'ai relu, et je me suis rendu compte que ce conte n'a pas de fin, finalement. La petite fille du conte Bouquet-Dor rentre dans cette chaumière. Elle découvre 3 chaises, 3 bols, elle mange dans un être bol, 3 lits, elle s'endort dans un être lit, elle est réveillée en sursaut par le poison qui vivait là. Elle s'enfuit par la fenêtre, terrorisée, et elle ne sait pas ce qui se passe après. Et moi, ça a été une formidable inspiration en tant qu'auteur. Je me suis dit, il faut que je retrouve la trace de Boucle d'Or, que je découvre qui elle était, ce qui lui avait lui appris. Et assez naturellement, du coup, j'ai écrit un roman de fantasy. Une fantaisie historique qui se passe au 19e siècle. Donc, le genre fantaisie est né de l'envie d'histoire, de l'envie de l'histoire que j'avais envie de raconter. Et pour Phobos, assez naturellement, c'est présenté comme un roman de science-fiction. J'écris principalement la nuit, et entre mes plages d'écriture, je me prends parfois des pauses et je regarde le ciel à travers ma fenêtre, le ciel nocturne rempli d'étoiles. Et je m'imagine ces autres mondes qui sont le monde qui peut s'apporter demain. Est-ce qu'on va y aller? Quand est-ce qu'on va y aller? Dans quelles conditions? C'est ce qui m'a inspiré ce roman Phobos. C'est en recevait de plus en plus d'images de la planète Mars à travers tous ces rovers, toutes ces sondes spatiales envoyées par la NASA, qui nous rendent pratiquement tous les jours de nouveaux paysages, et presque toutes les semaines, en fait, de nouvelles découvertes sur la planète Mars. Je le rappelle, dans une autre conférence, il y a quelques mois, la NASA a fait une conférence de presse internationale annonçant qu'ils ont découvert, de manière sûre, la présence d'eau liquide sur la planète Mars. Et ça, c'est quelque chose qu'on pensait impossible jusqu'à présent. On pensait qu'il y avait uniquement de la glace sur Mars. Or, la présence d'eau liquide est très importante, car on sait que c'est un ingrédient indispensable à la vie, tel qu'on la connaît sur Terre. Donc, ça relance toute la spéculation sur la vie dans l'espace, sur la vie sur Mars. Et ça, c'est venu aussi, bien sûr, nourrir énormément d'inspiration pour tout aussi. Qui s'est écrit de l'histoire de science-fiction, donc assez naturellement, parce que c'est une histoire que j'avais envie de raconter. Voilà, pour ce qui est de la question des genres dans lesquels s'inscrivent mes différents romans. Et je dois dire peut-être aussi, j'aime bien être là où on ne m'attend pas, j'aime bien surprendre le lecteur. Au sein d'un livre, je dose des révélations à ceux qui ont lu mes différents livres, notamment Phobos, le Sard. J'aime bien cette surprise. Et puis d'un livre à l'autre, d'un roman à l'autre, j'aime bien être dans un genre où on ne m'attend pas forcément. Et c'est ce qui s'est passé avec Phobos, je pense.
Vous avez posé la question hier, mais tout le monde n'a peut-être pas entendu la réponse, tout le monde n'était pas là. Le titre, Phobos.
C'est le nom en fait d'une des deux lunes de Mars. Il y a deux lunes autour de la lune de Mars, une petite qui s'appelle Deimos et une plus grande qui s'appelle Phobos. Ce sont deux mots qui ont une signification en grec ancien. Deimos, ça veut dire la terreur, et Phobos, ça veut dire la peur. Mais dans la mythologie, le dieu de la guerre Mars a eu des enfants avec la déesse de l'amour Vénus. Ces deux enfants, ce sont Phobos et Deimos. Pour moi, ce qui s'est imposé de manière assez évidente, j'avais envie d'écrire une histoire de thriller spatial, une histoire sur le fil, guidée par le suspense, par l'angoisse, et le mot de Phobos avec tous ses sens me semblait très intéressant. En plus, c'est un mot international qui résonne dans toutes les langues, donc ça me semblait un très bon nom de série.
On va peut-être lire un tout petit extrait pour se plonger dans. Tout simplement le début. C'est souvent plus simple de démarrer par le tout début. Phobos premier tome. Programme Genesis. Dans un petit rond, Genesis,
regarde encore plus que les autres, j'ai l'impression, on est connecté à notre téléphone portable, à notre ordinateur en permanence, on se met en scène sur Facebook, sur Instagram, ça n'arrête pas, on voit un flux d'images permanent. Et d'ailleurs, en ce moment, il y en a certains qui se prennent en photo, donc c'est, ça n'arrête pas. C'est un formidable moyen d'être en contact avec les autres. Les autres générations n'ont jamais eu ce moyen-là, donc c'est fantastique. Mais en même temps, c'est un peu une contrainte. On ne peut pas sortir de ce système. On est obligé de se mettre en scène en permanence. Et ce que les héros dans le fond essayent de faire, finalement, c'est de tirer un trait sur leur vie sur Terre, d'oublier complètement leur passé pour partir ailleurs, à l'ailleurs radical, à l'autre bout de l'espace. Et ils vont se rendre compte, à bord du cubito, à bord du vaisseau, une fois dans la base spatiale de New Eden, qu'ils restent entourés d'écran, qu'ils restent connectés à ce flux d'image, qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Ça, c'était une des grandes questions que j'avais envie de poser dans son pose, de mettre à la fois en scène cette envie de conquête, cette envie d'ailleurs, et cette tyrannie des images dans laquelle on vit. Et les deux personnages qui sont vraiment emblématiques de ça, c'est Léonore d'un côté qui a cette envie de partir, de se réinventer, et sur Terre, c'est la même vie qui incarne cette tyrannie des images, le pouvoir des images mises en scène permanente.
Petit extrait. On va faire connaissance avec Serena, la gentille enfin, apparemment. Vous me recevez, mesdemoiselles et messieurs. Parfaitement, du côté des filles, Serena répond sa fiancée, de sa voix enfantine en tournant un bouton sur le tableau de bord. Le visage de la conductrice exécutive apparaît sur le moniteur de transmission. Son carré argenté se détache nettement sur le dossier d'un fauteuil cuir noir capitonné. En bas de l'écran, les dernières secondes ont le décollage s'emballe. Dès-moi 30 secondes, dès-moi 29 secondes, dès-moi 28. Je peux encore vous appeler mesdemoiselles, j'espère, car vous n'êtes pas mariée, dit Serena dans le micro qu'elle tient à la main. Vous ne le saurez qu'une fois arrivé sur le sol de Mars. C'est très romantique de nos jours, l'attente. C'est très beau de se faire la cour. Je suis sûr que vous allez attirer des milliers de jeunes gens à travers le monde. Serena n'a jamais cessé de nous mettre sur un piédestal depuis qu'elle nous a sélectionnés. Vous êtes les meilleures, les plus belles, les plus merveilleuses. Je suppose qu'elle a fait même avec les garçons au cours des 12 derniers mois. Elle les a gonflés à bloc pour en faire des héros de l'espace. En ce moment même, ils doivent être en train de l'écouter aussi dans leur capsule, leur donner ses ultimes conseils dans du texte avant le décollage. Je profite aussi du fait que je puisse encore vous parler sans décalage, car plus vous serez éloigné de la Terre, plus le temps de transmission sera long. Vous vous souvenez pourquoi? Parce que le transmetteur laser du Cupido ne peut pas envoyer les infos plus rapidement qu'à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde, rappelle Sophia. Sophia, profitant qu'elle maîtrise le dossier de communication. Or, 55 millions de kilomètres nous séparent de la position de Mars à l'arrivée du Cupido, ce qui signifie qu'une fois là-bas, il faudra 3 minutes pour que notre signal parvienne jusqu'à la Terre et 3 minutes pour recevoir le signal au retour. C'est ce qu'on appelle la latence de communication. Ça a l'air d'un petit détail, mais sans trop en révéler, n'est-ce pas, Victor, que c'est extrêmement important, c'est 3 minutes aller, 3 minutes retour.
Exactement. En fait, il y a un aspect de très garçon et une fille pour se rencontrer dans la bulle centrale du vaisseau et échanger pendant 6 minutes pour essayer de se séduire. Sachant qu'à la fin du voyage, au bout de 5 mois, juste avant l'arrivée sur Mars, chacun devra choisir son partenaire de manière à établir 6 couples, les 6 premières familles de Mars, qui seront la future civilisation martienne. Donc il y a un énorme enjeu pour les passagers. Ils savent qu'ils vont devoir trouver leur partenaire à bord du vaisseau, mais quelle est la probabilité d'avoir quelqu'un qui vous convienne quand il y a uniquement 6 personnes en face de vous par rapport à 2 milliards d'humains sur Terre. Donc, ça, c'est un enjeu très important pour les passagers, mais aussi pour les spectateurs. D'ailleurs, alors, chaque Genesis, pour se prendre au jeu, on essaie d'établir les couples idéaux. Il y a même des bookmakers, des gens qui gèrent les paris sur quels sont les couples qui vont se former. Ça devient l'obsession de la Terre entière. Tout le monde a les yeux rivés sur son écran. Et essayer de deviner quels seront les couples qui vont se former à l'arrivée. Je ne dévoilerai pas quels sont ces couples, car c'est dans le livre qu'on le découvre.
Alors, il y a un passage que je voulais lire, je l'ai retrouvé tout de suite, mais finalement, je ne peux pas le lire, parce que là aussi, c'est toujours le problème quand on parle d'un livre. Je ne voulais pas révéler le petit secret de Léonore, quand même. Simplement, Léonore, comme d'ailleurs beaucoup de ces jeunes, on verra pourquoi après, comme presque chacun de nous dans la vie, a des choses qui sont des petits secrets, souvent pas très importants en fait, voyons, mais auxquels nous, par erreur, souvent, on attend beaucoup d'importance. On a un petit défaut, on croit que c'est un drame. On croit que quelque chose vous défigure, alors qu'en fait, ça n'a aucune importance pour les autres. On croit que, voilà, enfin, on pourrait continuer, je pense, surtout quand on est jeune.
Ouais, c'est exactement la chose pour vous, c'est très vrai ce que tu dis, Stéphanie, et je pense que dans cette société de l'image, une fois encore, on se met en scène, on a autres à travers ces images qu'on pose sur les réseaux sociaux et on veut cacher absolument nos défauts. Et Léonore, c'est vraiment une enfant de cette époque, elle a votre âge, elle est comme vous, elle voudrait être parfaite, non seulement aux yeux des autres, mais aussi aux yeux du monde entier, parce qu'elle a cette particularité d'être filmée 24h sur 24. Donc ces petits défauts qu'elle a et qu'elle voudrait cacher vont prendre pour elle des dimensions absolument énormes.
Maladif, quasiment.
Maladif.
En réalité, on le découvrira. C'est quelque chose d'important. Est-ce que c'est facile aussi, Victor, même si vous parlez des images, d'autres choses, de ce qui nous touche, pour nous adultes, est-ce que vous ne pensez pas particulièrement à cette fragilité de la préadolescence et de l'adolescence, où on fait une montagne parfois de petites choses, et avec le recul, on s'en rendra compte, mais là on le vit comme si c'était tragique.
Oui, je pense que c'est très important, c'est que le regard des autres est crucial. À l'adolescence, on se définit en grande partie dans le regard de l'autre. Comment est-ce qu'on apparaît? Comment est-ce qu'on s'intègre en groupe? C'est les questions qui nous obsèdent à cet âge, à votre âge, je pense. Et effectivement, les passagers du Cupido qui ont entre 17 et 21 ans sont complètement dans cette logique, dans cette obsession de l'apparence. C'est aussi pour ça qu'ils ont été sélectionnés. C'est Anna McBee qui tire les ficelles. Elle, ce qu'elle veut, c'est du clash. Elle veut de l'audimat, elle veut créer du conflit. Donc elle a choisi ces jeunes qui en apparence sont parfaits, mais qui ont tous une fêlure, une cassure, un défaut qu'ils peuvent cacher. Elle a tout orchestré pour qu'ils craquent. À un moment ou à un autre, les uns et les autres se rendent pour des raisons anodines. S'ils réussissaient à prendre un peu de recul, ils pourraient relativiser les choses, mais il y a une telle pression à cause du show, à cause de ces milliards de spectateurs qui les regardent. C'est comme une bombe à retardement ce vaisseau. Et c'est la maladie organisatrice n'attend qu'une seule chose, c'est que cette bombe explose et qu'elle explose en direct à l'écran.
On est donc sur le thème de la manipulation. En plus, on a affaire à des adolescents autour de 18 ans, à peu près 19 ans, qui parfois ont été recrutés, repérés comme mineurs par certaines maladies. Ces jeunes ont des jeunes en voiture, en fait.
Mais si j'ose dire, c'est là que la science-fiction rejoint la réalité. La réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on la consomme aujourd'hui, c'est déjà comme ça que ça fonctionne. On nous dit telle réalité, mais le mot réalité, c'est un mensonge qui peut être scénarisé. Les gens sont choisis à cause de leur fragilité, parce qu'on espère que ça va clasher à l'écran. Donc le monde que j'ai décrit en ce moment, ça n'est pas un autre monde, c'est pas un futur lointain, c'est déjà notre monde à nous. Donc s'il fallait le mettre dans le genre de la science-fiction, je dirais que c'est de l'anticipation. L'anticipation, c'est ce qui pourrait se passer demain matin, ce qui pourrait se passer même cet après-midi. La technologie que j'utilise en Focus, j'en parlais, c'est une technologie qu'on maîtrise déjà aujourd'hui. On pourrait déjà aujourd'hui envoyer des gens en aller simple vers la planète Mars. La télé-réalité, c'est quelque chose qu'on vit aussi dans notre société. Donc j'ai simplement regardé autour de moi et j'ai poussé un peu plus le trait.
ça nous fait jouer chaud. Et on fait ça aux imaginaires directement, des comptes. Bien. Est-ce que, justement, il n'y a pas ce décalage aussi? Moi, ça m'a frappé, en tout cas, dans ces moments, dans cette série Phobos, où je trouve qu'il y a une énorme attention portée aux personnages, à leurs émotions, à leurs difficultés. Alors, on vous sent, l'écrivain, vous êtes très empathique avec vous, y compris les moins sympas, apparemment. Et à l'inverse,
j'ai voulu en fait prendre même inconsciemment, mais prendre le contre-pied de ces émissions de télé-réalité une fois encore. En fait, on nous fait croire que ce sont des émissions d'empathie. On va vivre le quotidien de gens filmés 24h sur 24, mais la réalité, c'est que c'est le contraire de l'empathie. Les gens qui participent à ces émissions sont considérés comme du bétail. Ce sont des choses, en fait, ce ne sont pas vraiment des êtres. Donc j'ai voulu prendre le point de vue inverse, le mettre du côté des candidats. Il y a un seul passage qui dit jeu dans le roman, c'est Léonore. J'ai voulu vraiment qu'on soit de son côté, qu'on soit avec elle, et qu'on comprenne pourquoi elle a signé, pourquoi elle a renoncé à son droit à l'image pour la vie, quels sont ses espoirs, quelles sont ses craintes, et comment ses espoirs peuvent être déçus au cours de ce voyage sans espoir de retour. Alors pour ce qui est des adultes, effectivement, ceux qui tirent la tête du chemin, ce sont des adultes sur Terre. C'est un homme qui est assez difficile d'avoir de l'empathie pour ce personnage, je te l'accorde. C'est un personnage extrêmement mathématique qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais je me dis que c'est un personnage qui est très intéressant à écrire aussi. Son côté jusqu'au boutiste, son côté absolu dans son ambition, sans aucune ambition, fait qu'on peut s'attendre à toute sa part et qu'on est surpris jusqu'où elle peut aller. Elle ne se fixe aucune limite. Donc c'est un passage qui donne du plaisir à écrire, qui est assez jouissif à écrire et sans doute assez jouissif à écrire aussi.
C'est un vrai personnage de méchant, c'est là.
Complètement. J'ai voulu lui donner aucune circonstance atténuante.
Un petit extrait. L'œil d'Andro étincelle, second volume. La réponse se trouve peut-être dans le bureau de votre mère, dit-il. Raison de plus pour y aller. Le lourd bruit des pas s'approche d'instant en instant. Hermione hésite encore, le visage figé par le doute, le corps paralysé par le corps mental de Serena McPhee, a érigé entre sa fille et la liberté. Son poids droit s'est refermé sur le médaillon accroché à son cou, comme si dans cette tempête d'indécision, c'était le seul cordage auquel elle pouvait se raccrocher. Si je viens, est-ce que vous pouvez me jurer de ne pas m'abandonner comme l'autre garçon? Un garçon, à tête en bout, en s'efforçant de ne pas hausser la voix malgré l'obscurité qui gagne. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais je vous jure que je ne vous abandonnerai jamais, Hermione, et que je vous aimerai à retrouver votre père. Ce serment, c'est l'éthique, le verbe qui saute. Alors, on ne peut pas aller au-delà de la lecture parce que vous pouvez en dire trop. Mais là aussi, elle a des secrets aussi, c'est vrai, avec lui.
Elle a énormément de secrets. Comme tous les gens, sont manipulateurs, elle peut garder le contrôle absolu des autres, mais aussi d'elle-même, de son passé. C'est sans doute le personnage le plus mystérieux de ce roman. Certes, pour les candidats, on est secret à cacher, on va découvrir petit à petit, on en découvre beaucoup aussi dans son passé de l'équipe. Serena reste extrêmement mystérieuse. Il faudra sans doute apprendre toute dernière page de Phobos pour savoir qui est vraiment ce personnage si intrigant, si machiavélique et qui nous recule devant nous.
Même si évidemment l'histoire des personnages, l'amour, le romantisme, les échecs aussi, tout ça joue. Et à la fois, c'est parce qu'il est manipulatoire, mais aussi les sentiments vrais chez les personnages au-delà des images.
Complètement. Et c'est une fois encore, pour moi, très emblématique de notre société. On a un besoin d'amour, de romance, ça a toujours existé, et notamment chez les jeunes, c'est un moment très important de l'adolescence, le rapport à l'autre. Et on a tous ces outils qui nous sont offerts aujourd'hui pour entrer en contact avec d'autres. Toutes ces applications de dating, ces sites de rencontres, on n'a jamais eu autant de possibilités de rencontrer l'autre. Et en même temps, on se sent isolé, on se sent seul, on a l'impression d'être un peu dans une bulle. C'est un énorme paradoxe pour moi, et c'est ce que j'ai voulu exprimer dans Phobos, notamment par cette métaphore de cette bulle de mer au milieu du vaisseau Cupido. Donc, chaque jour, un garçon et une fille vont se rencontrer, ils ne peuvent pas se toucher, ils ne peuvent pas vraiment s'attendre, car il y a cette cloison de verre blindée qui sépare la bulle en deux. Cette cloison de verre, c'est un écran de plus.
Phobos, malgré ces horreurs qu'on devine, qu'on voit peu à peu, ces manipulations, c'est aussi une, quand même, une histoire qui fait rêver. Vaisseau spatial, recommencer sa vie, tourner une page.
sentir à travers moi, c'est cette envie de conquête, cette envie de découvrir notre monde. On l'a tous en nous, je l'ai en moi, je suis sûr que vous l'avez en vous. Et c'est un des deux ingrédients de Phobos, finalement, c'est ce qui fait ce roman, c'est cette tension entre cette envie d'absolu, cette envie de découverte, et cet enfermement des images, cette manipulation, cette mise en scène permanente des genres et des existences. Et si le balancier entre les deux, mes personnages ont cette envie de commencer une vie complètement nouvelle, d'écrire leur propre histoire, et se trouvent en même temps dans un piège, se trouvent en même temps enfermés. Comment est-ce qu'ils vont réussir à sortir du piège? C'est toute la question que je te pose.
Entre le fond, quand il faut réussir à sortir d'un personnage, l'émotion joue un rôle important. Il y a aussi une sorte d'opposition, plutôt de rapprochement en fait. Mais il y a une sorte d'osmose entre d'un côté, on voit au fur et à mesure du roman, cette société, celle de Serena, pour cette société pour laquelle elle travaille, et qui est une sorte de forme de pension, comme on dit aujourd'hui, qui n'a pour but que de faire de l'argent, servie par les ambitions sans limite de certains et certaines. Et puis aussi, à côté de ça, il y a les politiques. Il y a le candidat à la présidence, et qu'est-ce qu'il y a comme meilleure campagne électorale que de lier un petit peu son sort à une émission de télé-réalité qui a une influence mondiale. Enfin, on imagine le pouvoir que ça pourrait donner. Déjà, quand on voit un peu l'influence d'animateurs, qui à part ça, on va dire entre nous, n'ont pas cassé qu'un canard, eh bien, on se dit, des politiciens manipulateurs, il en existe. Quel pouvoir lié à une société de speed dating, de communication spatiale? Vous imaginez le pouvoir de partir dans l'espace, le pouvoir de maîtriser les images et donc d'influencer des centaines de millions de personnes, et l'ambition, le pouvoir, et tout ça abrité, où on ne sait plus si c'est les affaires qui contrôlent les politiques qui contrôlent les affaires, ou si finalement ce sont les mêmes.
Oui, c'est tout à fait juste, et c'est vrai que le contexte de Foucault, ça, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce contexte de surendettement des États. Ça, nous aussi en Europe, ce contexte où la politique perd un peu de son prestige. On a le président Green aux États-Unis, le président du parti ultralibéral qui voudrait être réélu, mais ça ne marche pas très bien. De manière très opportuniste, il va se rendre compte que ce show Genesis est suivi par la terre entière, c'est extrêmement populaire. Il va demander à Serena McVie d'être sa vice-présidente pour la prochaine élection présidentielle américaine, donc de concourir avec lui sur la liste de manière à être élu. Effectivement, c'est ce qui va se passer ensemble, sans trop spoiler. Grâce au show Genesis, il va être élu avec Serena comme vice-présidente. Donc on se rapproche, il y a un parallèle amusant avec la campagne électorale américaine qui a lieu actuellement et qui repose énormément sur le spectacle. On voit qu'un des deux candidats en lice pour l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, vient vraiment du monde du spectacle. Hein, il a dit qu'il y a une émission de télé-réalité. C'est comme ça qu'il s'est fait vraiment connaître du public américain. Ça s'appelait The Apprentice. Il embauchait en fait des stagiaires pour travailler dans sa compagnie et tout ça a été filmé 24 heures sur 24. C'est ce qui l'a rendu populaire auprès des Américains. Donc il y a un parallèle comme ça qui se crée entre la réalité et le roman, une fois encore, Foucault parle de notre monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les ambitions réelles de Serena McVie, ça n'est pas l'argent. Certes, elle s'enrichit énormément avec le programme, mais son ambition réelle, c'est le pouvoir. Et en mettant Serena McVie sur sa liste comme vice-présidente, peut-être que le président Green a commis la plus grosse erreur de sa vie. Ça dépendra donc de Foucault pour le savoir.
Le complot. On est en ce moment, vous savez bien que la France le disait là aussi hier, on a un accès quasi illimité au monde. Avec Internet, on trouve à peu près tout ce qu'on veut, en tout cas tout ce qui est récent. Quand on cherche des choses plus anciennes, déjà moins générationnelles, tout ce qu'on ne trouve pas, parce que ça n'a pas été intégré à l'époque au système mondial et du coup on le trouve dans l'archive papier encore. Mais on trouve quand même énormément de choses et c'est vrai que c'est le côté pragmatique des choses, très positif des choses. Mais c'est au savoir, encore faut-il s'orienter. Sauf qu'il y a une telle masse de documents qu'il y a tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de filtre. Entre entre ces fonds de pension. Hein. C'est pas compliqué de voir ceux qui dirigent. En gros, aujourd'hui, à peu près, enfin, on sait qu'une très grande banque mondialisée a beaucoup plus d'influence parfois que certains de nos citoyens. On sait très bien, on l'a vécu en France, on peut voter un référendum, on vote non, et finalement, le président élu, il fait oui. Des fois, on hallucine, on se dit là, il y a des vrais problèmes. Hein. Je donne ces exemples. Donc, est-ce que vous n'avez pas voulu aussi à la fois jouer un peu avec ces théories du complot, à la fois un peu ridiculiser, parce que finalement, on voit assez vite. Mais il y a quand même un vrai complot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un complot des mecs secrets du monde, mais des gens qui sont des manipulateurs.
Complètement. Mais c'est vrai qu'on est dans une société de la théorie du complot, ça c'est très vrai. Il n'y a jamais eu autant de thèses conspirationnistes. On parle des francs-maçons, mais ça depuis longtemps, mais aussi des Illuminati, hein, de plus en plus. Plein de sociétés secrètes qui tiennent pas les ficelles, et toujours les vidéos sur YouTube qui décodent. J'ai vu ça le Super Bowl aux États-Unis, la grande cérémonie où chaque symbole, en fait, c'est un symbole illuminati. Donc on peut partir dans toutes les directions comme ça, et c'est symptomatique du fait, à mon avis, avec l'accès à l'information qu'on a sur Internet, on a accès à tout, au meilleur comme au pire, au vrai comme au faux, et c'est très difficile de faire la part des choses. Et je lisais un dossier dans Libération il y a un mois. Titrait justement sur la théorie du complot, il y a beaucoup de magazines qui titraient, parce que c'est un vrai sujet de société, et qui disaient que ce sont les jeunes, paradoxalement, moi je pensais que c'était les gens plus âgés, mais ce sont les jeunes qui sont les plus enclins à croire à la théorie du complot. Parce qu'ils ne savent plus vraiment, c'est ce qu'on leur dit est vrai, ils ont beaucoup de suspicions, je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, mais c'est ce que j'ai lu dans cet article, qu'on se méfie de tout. On se méfie de toutes les informations et du coup, on se fait sa propre thèse de son côté, sa propre interprétation de réel et tout est un peu dilué. C'est quelque chose qui est assez dangereux finalement parce que quand on ne sait plus où est la vérité, on n'a plus vraiment de terrain commun pour échanger avec les autres, on n'a plus la même vision du monde. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer, ça, ce conspirationnisme, comme on dit. C'est vrai que je le mets en scène dans ton poste, c'est un des dangers de notre époque.
Et donc, peut-être votre position sur ces questions-là, c'est pas une thèse, hein, c'est un roman, on se passionne, on s'ennuie pas, il y a des personnages, et finalement, non, le monde n'est pas une vaste conspiration, mais il y a quand même des vrais manipulateurs.
Voilà, c'est ça, je pense qu'il ne faut pas se laisser aller à la psychose de voir du complot partout. Néanmoins, il ne faut pas non plus être candide et prendre tout pour un temps, il faut savoir qu'il y a des manipulations, il y a en tout cas des intérêts qui s'exercent très fort dans la politique économique qui ne disent pas toujours leur nom. Et en fait, il n'y a pas de secret, hein, c'est grâce à l'éducation qu'on peut déceler, voir clair dans le jeu du monde et le jeu des influences qui s'exercent dans notre monde.
Par exemple, on imagine, c'est pas clair parce que c'est un partisan plutôt d'une autre thèse, mais on pourrait imaginer un président Green qui nous raconterait mon ennemi, c'est la finance et ensuite qui soutient la grande banque. Incroyable. Et là, ce ne serait pas un complot, mais ce serait une manipulation.
Par exemple.
Et là, plus sérieusement, on va passer, parce que le temps passe, on regarde, on n'a plus beaucoup de temps à partager, on ne voit pas le temps passer avec une tortue année avec ses livres non plus. Et on pourrait passer 2 heures comme ça à discuter de ces romans, tout autour, pour ne pas trop en révéler. On parlait donc d'origine, et c'est aussi imaginal pour le lance, parce qu'ils sont déjà en avant-première, vous êtes les premiers à pouvoir vous procurer origine, la préquelle. Est-ce que vous pouvez encore expliquer en 2 mots, qu'est-ce que c'est qu'une préquelle, comment vous l'avez construit, est-ce que ce volume sort alors qu'il se passe avant les 2 volumes, et vous sortez avant la sortie du 3e, alors expliquez-nous ça.
Voilà, alors une préquelle, c'est en fait ce qui se passe avant le cycle principal. Hein. Dans les séries, il y a soit les sequels, ce qui se passe après, soit les prequels, ce qui se passe avant, c'est une espèce de flashback sur le passé, avant l'action principale. Moi, j'avais toujours en tête, hein, quand j'ai commencé à écrire Phobos, cette idée de préquelle. J'avais très envie de le faire, et mon éditeur était partant, il a dit, on va le faire, si la série marche bien, hein, on fait le préquelle. C'est quelque chose qui nous intéresse aussi. En ce qui concerne le rythme de publication, une fois encore, j'aime bien créer la surprise, j'aime bien être là où on ne m'attend pas forcément. Et je me suis dit, avant de faire paraître le tome 3 qui clôt la trilogie, on va prendre un pas de côté, on va prendre un peu de recul et on va se promener vers le passé de ces candidats. Ces candidats, donc finalement, on ne sait pas grand-chose, surtout les garçons. Et on va essayer de montrer quels sont les ressorts de cette décision, la décision de leur vie, celle de partir en année 5 pour Mars sans espoir de retour. C'est l'histoire que les 6 histoires que j'ai racontées dans Focus Origin, ce sont les 6 mortels, les 6 candidats, et les 6 secrets qui n'ont pas encore révélé dans les tomes 1 et 2.
Justement, ça m'a frappé tout de suite quand j'ai vu les ouvrages. Les 2 premiers tomes, ce sont des filles sur la couverture, les 5 garçons sur la préquelle. Pourquoi? Donc ça, c'est super sympa, Victor, et votre éditeur, que l'on remerciera évidemment à l'émission Robert Laffont d'avoir bien accepté de sortir en avant, de présenter au public des imaginales. On va peut-être faire un cadeau supplémentaire, peut-être lire un petit extrait, le début de Phobos Origine, si vous voulez bien.
Allons-y. Alors, je vais commencer par, il y a donc six nouvelles, six portraits, qui correspondent aux six personnages, et ces nouvelles se répondent les unes les autres, composant un roman choral. Il y a des éléments de nouvelles qu'on retrouve dans une autre, et ainsi de suite. Et quand vous aurez lu les six à la suite, il y a quelque chose de supérieur qui va émerger du texte. Et j'ai également émaillé ce roman d'un grand nombre de schémas. Vous savez que c'est maintenant une marque de fabrique de Foucault d'avoir des schémas pour se représenter mieux dans cette conquête spatiale. On a mis vraiment le paquet dans Foucault d'origine pour donner l'impression au lecteur d'être lui-même un candidat au programme Genesis, de passer lui-même les tests de sélection et être encore plus proche de l'expérience de mes six personnages et de mes six prévents. Alors, vous avez le sommaire se présente sous forme d'une tablette numérique qui donne accès à la fois aux différents dossiers secrets des personnages, mais aussi aux différents tests de sélection. Et je vais commencer par le premier portrait, première archive, celle qui concerne Mozart, le candidat du Brésil. Donc chaque nouvelle est écrite un peu comme le roman lui-même, non pas par chapitre, mais par séquence, comme un scénario de film avec des chants, des contre-chants. Archive Magnier Production, bureau de Rio. Enregistrement du mardi 8 décembre, 17h55. Décollage, moins 19 mois. Dans un cadre sur une salle au mur de verre, au dernier étage d'un gratte-ciel. La ville plonge à 360 degrés sur un panorama à couper le souffle et laissé de points d'acier sur lesquels se réfléchit un soleil tropical, un peu blanc. À l'est, on peut apercevoir la mer scintillante, bordée de magnifiques plages de sable blanc. À l'ouest, depuis les hauteurs, se déversent les pétroviers qui envahissent la ville comme des coulées de magma, mêlant la tôle et le plastique. Pour tout mobilier, la pièce comporte une chaise unique. Un seul petit point rouge brille en bas à droite, indiquant que ces images émanent d'une caméra en train de filmer. Soudain, quelque part, une porte s'ouvre dans un équipe. Une silhouette entre dans le champ, celle d'un jeune homme qui semble avoir dans les 17-18 ans. Il vient s'asseoir sur la chaise. Sa peau hâlée contraste avec le coton blanc de sa chemise. À travers le col entrouvert étincelle une chaîne en or et son crucifix. Ses épais cheveux bruns illustrés luisent aussi d'un éclat artificiel, plus blanc que celui du soleil. Dans ses yeux noirs se reflète la lumière des spots. Braqué sur lui. La voix d'une jeune femme retentit en chant. Bonjour et bienvenue dans les bureaux brésiliens de Magnier Production. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous faites partie des 100 000 candidats retenus au niveau mondial pour la seconde phase de sélection du programme Genesis, parmi les millions qui ont envoyé le formulaire d'inscription. Bien sûr, il y a encore de nombreuses étapes à franchir avant de passer le dernier round qui désignera les 12 prétendants de mars. Et qui sera présenté par la productrice exécutive du programme Genesis, Madame Selena McBee, elle-même. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions, en anglais, puisque c'est la langue officielle du programme. Rassurez-vous, rien ne vient sortir. À ce stade, il s'agit surtout de savoir comment vous prenez la lumière, la qualité de votre élocution, toutes ces petites choses qui ont leur importance pour assurer un spectacle. Je donne la peau. Et là, tout de suite, mademoiselle, je la prends comme dans les lumières. Un sourire se dessine sur ses lèvres pleines, ni provocateur, ni séducteur. On devine que ce n'est pas la caméra qui me fixe de cette prunelle noire comme de l'encre, mais celle qui se tient en face de lui. La voix de la chargée de casting vacille, manifestement troublée. Bien, très bien même, balbutie-t-elle, avant de retrouver son professionnalisme. Répondez-moi simplement en regardant la caméra bien en face. D'accord? Le jeune homme hoche la tête, tandis que la chargée de casting enchaîne avec la première question. Comment vous appelez-vous? Mozart. Un instant de silence. Oui, c'est ce qu'il y a écrit sur votre formulaire d'inscription. Joli pseudonyme, le nom d'un compositeur protégé. Mais le règlement stipule que les candidats doivent. effectivement. Le lion de Janeiro partit d'Ipanema, mardi 8 décembre, 18h29. Mozart marche d'un pas pressé sur un trottoir écrasé de soleil. En cette fin d'après-midi, les rayons se changent en or liquide, transformant les rues de Rio en cité mythique, en Eldorado. Dans le dos du jeune homme, la tour et les productions déjà lointaines ressemblent à un lingot rutilant. Devant lui, la promenade qui longe la plage semble pavée de métal précieux. La cigogne emblématique du plan de sucre se détache dans le contre-jour, reliée à la terre par le style d'un périphérique. Il flotte dans l'air une odeur suave, mais les huiles solaires entreprises, le parfum haute couture, le cocktail aux fruits exotiques. Nous sommes à Ipanema, l'un des quartiers les plus prisés de la ville. Par le plan hystérique descend vers la plage, Mozart retire ses mocassins de cuir fin et les glisse prestement dans les poches arrière de son pantalon blanc. T'as vu là? T'as la bourre rose. La voix siffle comme celle d'un serpent, en prononçant le mot boss. Elle émane d'une forme adossée dans l'ombre d'un palmier planté sur la promenade. Qu'est-ce que tu foutais? Désolé, Pitao, j'ai eu un problème. Avec ma dernière livraison. Mon Mozart, en essuyant du revers de la main, la fine pellicule de sueur qui s'est formée sur son front, au cours de sa marche accélérée. Un problème? Oh, pas grand chose, juste des abrutis de fric qui ont en bateau appris qu'il était censé livrer à Copacabana. La forme se détache du tronc du palmier, comme si l'ombre de l'arbre elle-même prenait vie sous l'effet d'un sortilège. Un homme se matérialise, tant de noir vêtu, pantalon, veste et chemise, jusqu'au sombrero qui lui tombe sur le front et lui tache les yeux. Des flics, en embuscade, grimace la bouche sous le rebord de son héros. Quatre dents en or étincelles dans la lumière, les deux canines du haut et les deux canines du bas. Non, pas en embuscade, sans plus de précise des Mozart. Ces enfoirés sur la coulée poussent à prendre un café en terrasse. J'ai jugé plus prudent d'attendre que la volaille s'envole, avant de monter dans l'immeuble. Mozart s'essuie à nouveau le front, mais cela fait plusieurs minutes qu'il s'est arrêté de marcher. Ce n'est plus l'effort physique qui le fait transpirer. C'est l'angoisse. Plus d'un poulet, Rachel pour se donner une contenance. L'homme noir en face de lui reste silencieux pendant quelques secondes. Impossible de tenir l'expression de son visage à demi caché par le sombrero. Soudain, rapide comme le piton auquel il voit son nom, il empoigne la chemise de Mozart et la tire contre lui. Brasé contre poitrine, le bord du sombrero s'écrasant sur les pompes de bruit. La prochaine fois que tu as un problème, tu appelles, siffle-t-il dans l'oreille de Mozart. Sinon, le poste pourrait croire que tu essayes de forcer compagnie à la rana. Et ça serait dommage de croire ça, le boss, pas vrai? Oui, Pitao, souffle Mozart. J'appellerai. Pas la peine de briser cette chemise, c'est une barbarie. Mais l'homme noir ne relâche pas son étreinte. Au contraire, il resserre le poing sur le coton blanc, qui glisse entre ses doigts couvert de bague. Ta chemise, ton fut. Pour quel but? Tout ça appartient à la rana. Et toi aussi, avec ta petite gueule d'orange, tu appartiens à la rana. Ne l'oublie jamais, Rose. Jamais. Pitao attrape le poignet de Mozart et le tord dans le revers de sa veste, jusqu'à ce que la main s'ouvre. Il y glisse un petit sachet de poudre blanche. Puis il referme les doigts du jeune homme entre les siens, brutalement, comme s'il voulait les broyer. Voilà la livraison de ce soir. Maintenant, brûle-toi, parce qu'avec des gens sur le point de quitter la plage, je sens qu'elle n'est pas bien enferrée, cette petite garce. Mais pour bien changer de tirage, si on fait des gaffes, je la vois garder ces connards de la fontaine du Bat, par exemple. Tâche de te rattraper en jouant les jolies cœurs que tu sais si bien le faire. Fais-la recouler. Et montre-nous que tu es digne de la confiance de la rana. Et t'as un repousse Mozart aussi brusquement qu'il l'a attiré à lui. En quelques instants, l'homme noir n'est plus qu'une ombre parmi les ombres qui déambule en bordure de mer. Mozart reprend sa respiration en regardant le palais bruissant du ballon. Sa main tremble un peu, toujours serrée sur le sachet de poudre. Il finit par le fourrer dans sa poche. Puis il se détourne de la ville et se tourne vers la mer. Ses pieds nus foulent les marches brûlantes de l'escalier et s'enfoncent dans le sable chaud. Il s'avance entre les corps brunis, allongé sur des serviettes soyeuses. Cette portion de la plage est la plus riche. Un véritable showroom des marques, la plus grande marque de l'aéroport, une vitrine vivante des prouesses réalisées par les chirurgiens esthétiques de plus en plus de pays. Mozart s'arrête enfin devant un alignement de chaises longues louées à prix d'or, surmontées par de grands parasols. À cette heure, la plupart des transats ont été désertés. Tombeaux de serviettes froissées, où gisent des magazines abandonnés, dont les plages de papier glacé tremblent doucement au levant du soir. Une jeune fille est là, allongée sur l'un des transats. Sa peau d'ambre se marie parfaitement avec la couleur crème de son bikini, sertie d'anneaux d'argent sur les hanches et au décolleté. Les immenses lunettes de soleil qui lui mangent le visage sont argentées, elles aussi, de même que les boucles d'oreilles qui disparaissent à demi dans ses longs cheveux en perles, balayés de reflets blonds. C'est toi, non ? La belle tête de ses lèvres nacrées, au dessin idéal, presque trop parfait. Oui, c'est moi, Raphaël, répond Mozart. Excuse-moi d'être en retard. La jeune fille se relève contre le dossier de sa chaise longue, déployant des jambes interminables. Calmée comme celle d'une statue grecque. Elle relève ses lunettes sur son front, dévoilant des yeux clairs, étrangement absents, comme si elle n'était pas encore réveillée, mais toujours en train de rêver. Tu es en retard, dit-elle. Je n'en étais pas aperçu. La journée est passée si vite, entre le coiffeur, la manucure et la consultation chez le docteur Olivera pour ma rhinoplastie. Dis, tu penses qu'il faut que je fasse la conservation de combien ? Un centimètre ou juste un demi-centimètre. En fait, qu'en est-il ? Il est 6 heures passées, Raphaël, dit Mozart en dessinant la ligne d'horizon au large, sur laquelle le soleil pèse de plus son poids. Et je trouve que tout est très bien comme ça. 6 heures, déjà ? Répète-t-elle songeuse. Alors le chauffeur de papa nous attend en haut des marches. Elle cligne des yeux, puis ajoute avec une pointe d'inquiétude. Est-ce que tu m'as apporté ce dont j'ai besoin ? Mozart hoche la tête et glisse la main dans la poche pour en extraire un sachet de poudre. Mais Raphaël l'arrête d'une caresse. Pas maintenant. Pas ici. Tu me donneras ça chez moi, dans ma chambre. Je t'invite à passer la nuit à la villa. J'ai envie d'entendre ta voix, de passer du temps avec toi. Peut-être qu'il ne vaut mieux pas, commence Mozart. Qu'est-ce que tu dis ? Ton père, je veux dire, je crois qu'il ne m'apprécie pas trop. Raphaël se lève brusquement en proie à une rage aussi violente que soudaine. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'il apprécie ou pas, s'écrit-elle. Du moment qu'il paye l'addition, c'est tout ce que je demande. Mon coiffeur, mon chirurgien, ma poudre. Il n'a pas à savoir comment je dépense son argent. C'est pas comme si ma vie intéressait d'abord. Et toi, tout ce que je te demande, c'est de me tenir compagnie. C'est vraiment trop te demander. Je ne suis pas à ton goût. Ne dis pas n'importe quoi, Raphaël. Tu es le canon. Tu ferais craquer n'importe quel mec. Tu me fais craquer, moi. Elle écarte le rideau de cheveux qui lui est tombé devant les yeux, dévoilant un sourire satisfait. Sois gentil. Ramasse les affaires et suis-moi, ordonne-t-elle en tournant les talons. Mozart rassemble le baladeur holographique high-tech, le paléo en soie et les flacons de crème solaire dans un sac de plage en cuir monogrammé. Puis il envoie le pas à Raphaëlla, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable de la plage. Elle se d'un homme qui est dans les sables.
Je vois que vous êtes tous restés fidèles à l'écoute, et c'est une leçon intéressante parce que Victor nous a promis, parce qu'évidemment il sera là l'année prochaine, on sait déjà, il a promis de nous faire encore, mais cette fois-ci, encore un peu plus approfondie dans une petite bulle qu'on a installée pour l'année prochaine. On fera ces lectures avec des écrivains vraiment
nous semblait évident, non pas avec des chapitres, mais avec des séquences, des focales, des champs, contre-champs, hors-champs. Le roman a circulé dans différentes sociétés de production et il y a une petite adaptation audiovisuelle aujourd'hui où on travaille. Donc je n'en dis pas plus, ces choses-là prennent beaucoup de temps, mais je croise les doigts très fort et j'espère dans une prochaine édition de Imaginal avoir une annonce à faire à ce sujet.
Ça se fait. En tout cas, on est vraiment heureux déjà du succès des livres précédents. On est